L'amour par terre, il se situe dans l'œuvre de Rivette après le pont du Nord, juste avant Hurlevent. Et déjà, comme je sais que le sujet de ces journées est quand même lié au rapport à la littérature, pour pouvoir rentrer dans le film ou rentrer dans une hypothèse sur le film, je vais passer par les différents éléments littéraires qui sont intégrés dans le récit. Et pour commencer, alors quelque chose qui appartient non seulement à ce film-là, mais à d'autres films de Rivette, qui est les noms. L'utilisation de noms, de noms qui renvoient immédiatement à des contextes littéraires. C'est quelque chose que Rivette partage assez bizarrement avec la série Lost, ou dans Lost, si vous connaissez la série Lost, il y a tout un tas de noms de philosophes, Rousseau, Bakounine, Hume et tout ça qui sont utilisés. Ben là, dans ce film-là, par exemple, de Rivette, on a déjà deux prénoms qui sont les prénoms des deux héroïnes, Émilie et Charlotte, et on pense aux sœurs Brontë. Et le film suivant, c'est Hurlevent, donc il y a un espèce de pré-écho qui est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs films de Rivette où le film suivant est annoncé dedans. Dans le Bande des Quatre, par exemple, La Belle Noiseuse est annoncée. Donc c'est aussi une espèce d'étrange manière, une manière un peu ésotérique de faire venir un autre film à l'intérieur du film, ou d'annoncer un film à l'intérieur du film, Émilie et Charlotte. Et de l'autre côté, on a pour le camp de Clément Roquemort, son majordome et correcteur qui s'appelle Virgile, et Love of His Life, l'amour de sa vie, qui s'appelle, enfin, l'amour de sa sorte d'amour, qui s'appelle Béatrice. Bon, on a évidemment quelque chose qui renvoie à la Divine Comédie, et je me demande dans quelle mesure, mais alors là c'est vraiment déjà, je rentre déjà dans l'hypothèse, le fait d'avoir appelé Virgile et Béatrice, qui renvoie forcément à la Divine Comédie, à Dante, pas déjà une espèce de manière de faire rentrer, consciemment ou inconsciemment, Dante dans le problème de l'autofiction, qui est quasiment annoncé dans ce film, c'est-à-dire qu'on est en face d'une figure d'écrivain, dévorateur, d'écrivain prédateur, qui va utiliser des personnes de son entourage dans sa propre œuvre, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce film-là, c'est que c'est un film de Rivette où on rentre vraiment dans une espèce de confrontation avec la figure de l'écrivain ou la figure de l'auteur, comme une figure de quasiment de mauvais démiurge, qui veut faire rentrer au forceps sa vie dans son œuvre de façon à se donner le rôle. Un autre nom qui apparaît et qui est aussi chargé de tout un passé, c'est le nom qu'il choisit pour son propre personnage dans la pièce qu'il écrit, qui est Tropman. Tropman, en fait, c'est pas un nom si courant, donc je pense que c'est, enfin, il y a une forte possibilité qu'il y ait une allusion. Il y a eu Jean-Baptiste Tropman, qui était un assassin célèbre du 19e siècle, qui était vraiment un assassin superstar, qui avait tué toute une famille, qui avait essayé de s'enfuir et qui a été rattrapé au moment où il partait dans un bateau, et qui a fini par reconnaître tous ses crimes à chaque fois qu'on en déterrait un, et qui au départ voulait se présenter comme innocent. Et Jean-Baptiste Tropman, je doute franchement que ce soit pour l'assassin qui a été choisi, mais pour le fait que ce nom-là est utilisé dans le Bleu du Ciel de Bataille. Le Bleu du Ciel de Bataille, le héros principal, qui est une sorte d'image de bataille, s'appelle Tropman. Donc on a Émilie, Charlotte, Virgile, Béatrice et Tropman, qui sont déjà des espèces de noms qui renvoient à des champs littéraires qui se retrouvent rejoués à l'intérieur du film. Le film ne fait loin de faire que ça, il y a quelque chose qui parcourt l'ensemble du film, qui sont un nombre assez important d'allusions aux pièces de Shakespeare. C'est très très mystérieux la façon dont ces choses-là interviennent dans le film. On en a, ça commence dès la première grande scène de la pièce de théâtre en appartement que joue Émilie, Charlotte et Silvano, où Émilie cite Othello et dit, c'est les derniers mots que Othello dit à Desdemona avant que quick. Et Othello revient quand Charlotte visite la maison de Clément Roquemort, trouve Virgile qui est en train de traduire Hamlet en finlandais, et elle lui ils disent tous les deux, ils disent ensemble la chanson de Desdemone dans Othello, qui est Poor soul, sight, sitting under a sycamore tree, singing willow, willow, willow. et qui est une des trois occurrences, mais des occurrences archi signifiantes du sycomore dans le théâtre de Shakespeare. Sycomore, ça va être ma première parenthèse. Si elle est trop longue, tu m'arrêtes. Sycomore chez Shakespeare apparaît dans Peine d'amour perdu. C'est le vieux Boyer qui voit, qui est en train de dormir sur le sycomore quand il voit apparaître les personnages qui vont se rencontrer dans la pièce. Et on a l'impression que c'est sans importance, mais le sycomore a beaucoup moins d'importance dans la pièce suivante de Shakespeare, qui est Roméo et Juliette, qui est une pièce où il fait revenir plusieurs éléments de Peine d'amour perdu, dont Roselyne. Le truc, c'est que les noms chez Rivette, il y a aussi les noms chez Shakespeare. What's in a name? Et ça, on va en revenir dans quelques instants. Mais dans Roméo et Juliette, Roméo, au début de la pièce, alors qu'il est amoureux d'une Roselyne, Roselyne qui est déjà dans Peine d'amour perdu, va tous les matins se morfondre dans un cercle de sycomore. Et alors, ce cercle de sycomore, Shakespeare vraiment le fait apparaître quasiment dans la littérature anglaise. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver dans mes recherches sur la présence du sycomore chez Shakespeare, qui va rejoindre celle de la présence du sycomore dans L'amour par terre. Non seulement il n'y a pas de sycomore dans les précédentes versions de Roméo et Juliette, il y a eu 6 versions de Roméo et Juliette avant celle de Shakespeare, c'est une histoire qui apparaît d'abord dans des nouvelles italiennes, la plus célèbre étant celle d'un certain Bandello, que vous pouvez trouver en traduction, ni dans les versions anglaises. Donc ça, c'est un truc que Shakespeare invente, et pendant longtemps, j'ai cru que le sycomore était quelque chose qui avait déjà été utilisé dans d'autres pièces de théâtre élisabéthain. Il se trouve que non, pas du tout, c'est Shakespeare qui l'amène. Et les spécialistes de Shakespeare disent que le sycomore a pour Shakespeare un sens homophonique qui est le sic amour, que le sycomore est utilisé par Shakespeare pour indiquer la présence d'un amour dévorateur, d'un amour malade, d'un amour destructeur. Et voilà ce qui nous intéresse, parce que donc quand il réapparaît dans Othello, il n'y a plus de doute. Desdemona va bientôt se faire quick, comme dirait Émilie. Donc, si elle pleure sous le sycomore, c'est que l'amour que Othello a contracté pour elle est un amour absolument malade et qu'elle va y passer. Il y a d'autres allusions à Shakespeare dans L'amour par terre. Une sorte de scène de délire entre Charlotte et Virgile, où non seulement elle reprend Desdemona et Othello, mais aussi elle crie Roméo, 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 Roméo. Et surtout, la plus mystérieuse, il y en a peut-être beaucoup d'autres que j'ai pas trouvées, ça c'est tout à fait possible, parce que après, je prétends pas être, j'ai pas une espèce de Shakespeare décodeur pour retrouver les machins, mais la plus mystérieuse et peut-être la plus signifiante, c'est dans la scène de déploration de Charlotte avec Paul, quand elle est retournée dans son appartement avec Paul et qu'elle lui raconte toute sa jeunesse. Je vais vous dire la citation parce que je pense qu'elle est importante pour le contexte du film. Elle a la même valeur que dans Le Pont du Nord, le moment où Marie, en parlant avec Max, raconte Henrik, Werner, Maria Cara, etc., qui est une espèce de résumé des épisodes précédents et qui situe le film par rapport aux années 70, qui inscrivent les années 80 de façon historique. C'est-à-dire que les années 80 se donnent comme en général, culturellement quasiment comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, et donc d'un coup un monde change, le libéralisme devient enchanté, etc., etc. Et il y a un truc où on a fait table rase des années 70. Or, Le Pont du Nord, comme L'amour par terre, ramène la scène des années 70 et resitue les personnages par rapport à ce qui vient d'être traversé. Et à ce moment-là, Charlotte fait un résumé assez bouleversant. Donc, je vais vous le citer. C'est « Quand j'ai divorcé, je me suis retrouvé avec le Women's Lib, mais je les ai vite quittés pour les Black Panthers. Après, c'était les Indiens, Wounded Knee, Los Angeles, Trotsky, Atlanta, Dallas, les Weathermen, LSD, Nashville, Ricompley, Brooklyn, McLuhan, Staline, cure de sommeil, Ricompley, après Londres, Paris, recure de sommeil, Ricompley, toujours Ricompley, Ricompley. » Et peu de temps après, alors que Paul intervient et fait son malin, elle termine en disant la pluie tombe sur tout le monde. Et ça, c'est une phrase de La Nuit des Rois. C'est la phrase qui conclut La Nuit des Rois de Shakespeare, qui est vraiment une des phrases les plus à la fois terribles et sages de Shakespeare, qui est le fait que bah, tout le monde va en baver. C'est « In every life, a little rain must fall », comme chantait la Fitzgerald. Et donc, en fait, enfin, ma proposition par rapport à ça, mon sentiment, c'est que de la même façon que le Pont du Nord reprend des éléments de Paris nous appartient et de Out 1 et relance en fait l'entrée dans Paris, la question du complot et le personnage de la solitaire qui va se faire avoir par un mauvais amour et qui va se faire prendre dans un complot qui la dépasse, c'est-à-dire Anne. Bon, Gérard, c'est un gentil dans Paris nous appartient, mais c'est l'amour pour Gérard qui fait qu'elle rentre dans le complot que perçoivent Kaufman et Terry et tout ça. Et dans Out, le personnage de Frédéric et la façon dont elle va se faire, enfin, va mourir, comme Marie va mourir dans le Pont du Nord. De la même façon que le Pont du Nord reprend comme une nouvelle spire de la spirale des films de Rivette, ces éléments-là, L'Amour par terre reprend aussi Céline et Julie vont en bateau. On a de nouveau la question de l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la question de la solitude, le personnage du solitaire, personnage du solitaire ou de la solitaire, souvent la solitaire, mais quoi, le solitaire de Jean-Pierre Léo Collin dans Out aussi a une figure comme ça, qui va faire ses mauvaises rencontres et qui se retrouve pris dans une histoire qui est pas son histoire, mais qui le prend quand même. C'est le truc que Deleuze dit si bien sur être attrapé par le rêve des autres, être pris dans le rêve de quelqu'un d'autre, etc., et en périr du rêve de quelqu'un d'autre. Et il y a la solution qui est la solution d'amitié magique de Céline et Julie vont en bateau, où deux filles vont ensemble déjouer les pervers, les tarés, les machins, comme parlerait Juliette Berthaud, je les aime bien, les petits tarés et tout ça, mais vont réussir à déjouer ce truc-là et à sauver la génération suivante, la petite fille, des vieux trucs, des trucs du passé qui se rejouent en boucle dans la maison de la rue du Nadiropom. Non, L'Amour par terre, on a une situation qui est relativement similaire au départ avec deux filles. Ça aurait pu être, je sais pas quoi, Céline et Julie vont jouer au théâtre, quoi, vont faire une pièce de théâtre. Deux filles qui se retrouvent dans une maison hantée. La grande différence, la différence principale, et c'est là où les années 80 rentrent en plein, c'est qu'on a réussi à réinstaurer la rivalité entre les filles. Et que malgré tout, elles sont pas suffisamment complices sur le moment pour pas rentrer dans les jeux dans lesquels on les fait rentrer de laquelle est la préférée, laquelle joue quoi, etc. Dès le début, on voit que ça va être le problème. Il y en a une qui va jouer Barbara et l'autre et qu'est-ce qui va arriver à l'autre. Et dès le début, Clément et Paul ont leur petit scénario déjà réglé où on va rejouer une perpétuelle histoire qui est celle de une femme et deux hommes. Là, il se trouve qu'il y a deux femmes, mais c'est pas grave, on va se démerder pour faire circuler le truc de sorte à se réexciter avec des histoires de jalousie et à rejouer cette perpétuelle pièce de théâtre pourrie. Si je pense qu'il y a un truc des années 80 qui est arrivé, c'est que un des éléments qu'on pourrait tirer de ça, c'est que le côté, on a enterré les projets émancipateurs des 70. Qu'est-ce qui nous reste? On rejoue finalement le vieux jeu de la France qui est la galanterie, le 18e siècle, le libertinage, les jeux du hasard et de l'amour, les relations hommes-femmes jouées sous le mode de tu me fuis, je te fuis, tu me suis, etc. Tout ce truc-là, mais qui est vraiment perçu là comme une machine destructrice, absolument destructrice. Enfin, c'est une hypothèse. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et là où Shakespeare rentre de façon extrêmement curieuse, c'est que le résumé de la petite affaire de l'amour par terre, par Paul, c'est Clément s'intéresse beaucoup aux filles à partir du moment où un autre homme s'intéresse à elles. Ça, c'est la lecture, quasiment la lecture de René Girard de Shakespeare. Hein, c'est le truc des feux de l'envie. Sauf que Girard, il va écrire ça 7 ans plus tard ou 8 ans plus tard sur Shakespeare. Que c'est ça la question de Shakespeare. Mais il y a un antécédent à Girard. Girard l'a pas sorti de comme un lapin d'un chapeau. C'est la lecture de Joyce. C'est la lecture qui est dans Ulysse. Dans Ulysse de Joyce, et c'est pour ça que Stéphane Dédalus, quand dans Ulysse, commence à expliquer sa théorie sur Shakespeare, à savoir que les pièces de Shakespeare parlent du fait que Shakespeare aurait été persuadé que sa femme Anne le trompait avec un de ses frères, Richard ou Edmond, ou avec les deux. Ça énerve énormément les amis de Dédalus, ils finissent par lui dire où est-ce que vous nous amenez avec ça, est-ce que c'est un triangle à la française, le mari, la femme, l'amant, et ils disent est-ce que vous croyez vous-même à votre propre théorie, et Dédalus dit non, mais c'est la théorie qui est proposée, et il se trouve que les noms liés à Joyce vont se retrouver, mais dans deux films plus loin, dans La Bande des Quatre. Donc il y a une espèce de circulation bizarre, c'est que dans La Bande des Quatre, on a exactement comme dans celui-là, on a Charlotte, Émilie, Virgile, Béatrice, Tropman. Dans La Bande des Quatre, on a Joyce, Anna, Lucia, Nora, qui sont vraiment des prénoms qui marquent la constellation de l'auteur de Finnegan's Wake. Donc, on a deux filles qui sont prises à l'intérieur de la toile d'araignée de Tropman, de Clément Roquemort et de Paul, et on a cette espèce d'entrée à l'intérieur d'une pièce de théâtre qui est en train de se rejouer, qui est la relation entre Clément, Paul et Béatrice, et elles vont devoir arriver à se libérer de cette toile. Elles y arrivent, mais elles passent par des zones de souffrance et de douleur qui était inconnu de Céline et Julie. C'est-à-dire que le problème va être beaucoup plus vaste maintenant. Normalement, je dois vous aussi vous dire, alors il y a d'autres éléments littéraires qui rentrent en jeu, parce qu'il y en a plein, mais oui, l'un d'entre eux, l'une des... Alors là, c'est très mystérieux. Il y a une citation d'Anatole France dans le monologue de Charlotte lorsque ils sont en train de découvrir la pièce et que Clément Roquemort les caste pour le rôle de Barbara. Et Charlotte fait, vous avez fait de moi une ombre, etc. Elle dit si, comme l'a dit quelqu'un, les rêves, voilà. Bon, alors cette scène, je vais vous le redire bien. Mais c'est intéressant, toute cette histoire-là. Donc, le rêve est la revanche des choses qu'on méprise et le reproche des êtres abandonnés. Ça, c'est, allez savoir pourquoi. C'est une citation d'Anatole France. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est le dispositif. C'est que Clément Roquemort, à ce moment-là, enregistre Charlotte et va réutiliser l'enregistrement. Là, on rentre dans des choses qui sont très mystérieuses pour moi. Je ne sais pas si vous avez des clés par rapport à ça. Et il va utiliser cet enregistrement comme le message d'adieu de Barbara à la fin du film. Cette méthode-là, moi, quand j'ai vu le film, je ne savais pas encore complètement, mais disons, quand j'ai revu le film plus tard, ça m'a fait penser aux techniques de Jean Eustache. Et Eustache, il meurt 2 ans avant L'amour par terre. Mais c'est Jean Eustache qui enregistrait toujours ses amis. Il y a même eu une bande qui a été exhumée récemment par la Cinémathèque, L'oiseau des vacances, où on entend Jean Eustache jouer sur son répondeur les messages d'une amoureuse transie en larmes qui lui demande pourquoi il ne la rappelle pas. Et lui, il raconte son scénario et puis régulièrement, il met le truc. Et on sait qu'il a écrit en partie La maman et la putain avec des conversations enregistrées, etc. etc. Dans quelle mesure, ça c'est vraiment des hypothèses, il y a aussi dans le figure de Clément Roquemort. Clément Roquemort, il y a un côté, c'est l'anti, c'est le réalisateur anti-rivettien total. C'est-à-dire, c'est dans la relation de Rivette à Eustache, il y a le fait qu'ils ont travaillé ensemble sur Renoir et sur le cinéaste de notre temps sur Renoir. Et ils ont tiré tous les deux du cinéaste de notre temps sur Renoir une idée complètement différente. Je ne sais plus si c'est Eustache ou c'est Rivette qui disait ça, mais il y a une interview très nette où ils parlent du fait qu'ils en ont beaucoup parlé puisque Eustache montait le film. Et Rivette en avait tiré l'idée qu'il fallait absolument pas refaire sa vie, qu'il fallait improviser, rejouer sa vie dans ses films improvisés, et Eustache le contraire, c'est-à-dire aucune improvisation, et on rejoue des éléments de son autobiographie. Et ils ont développé leur poétique aux antipodes comme ça. Mais Clément Roquemort, il a une poétique eustachienne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est une sorte de mauvais Eustache, ou de méchant Eustache, quoi. C'est un Eustache du mal. Mais je dis pas que c'est des choses auxquelles ni Rivette, ni Bonnidia, ni machin ont pensé, mais ça résonne dans le film énormément. L'idée de l'auteur, Demiurge, à la fois une espèce d'auto-fictif, une espèce de pseudo-Dante qui va re-régler l'histoire de sa vie à travers son œuvre et en reconvoquant les figures clés de sa vie, mais en leur faisant la leçon, quoi, et en disant mais moi j'ai raison. C'est ce que c'est si on est vraiment méchant avec Dante, c'est un peu ce qu'il fait. Il le fait de façon formidable, mais ça va ce qu'il fait. Il reconvoque tout le monde et puis il dit bah tu vois, même Cavalcanti s'est gouré, même machin il s'est gouré. C'est lequel qui va au paradis, c'est Bibi. Et c'est une technique qui va revenir en force dans la littérature française des années 80 jusqu'à nos jours. Je veux dire, il y a un truc qui est fou quand même, qui est vraiment fou. Là, on sort de l'étude propre du film, mais un des co-scénaristes du film, c'est Bonitzer. Bonitzer, c'est un malheur qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'il y a un écrivain d'autofiction, Christine Angot, qui va faire un roman qui est simplement la vie de Bonitzer avec, je sais plus comment elle s'appelle, Hélène Filière, Sophie Filière, qui va grosso modo vampiriser intégralement et lui faire la leçon, quoi, comme ça. Et lui-même va répondre par un film génial, une comédie sur l'autofiction qui est Je pense à vous, qui raconte pas directement son histoire parce qu'il fait pas son autobiographie, mais qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a le malheur d'être la proie d'un écrivain autofictif. Et c'est ce qui vient de lui arriver, mais c'est ce qui arrive à Paul et à Béatrice dans l'œuvre de Clément Roquemort. Alors Paul, il est un peu complice. Paul, il a un jeu, il fait double jeu là-dedans. Et là où c'est curieux, c'est que Paul, à sa manière, si Roquemort c'est une sorte de Eustache du mal, Paul c'est une sorte de Rivette du mal, parce que lui c'est le, il dit c'est le voyant qui voit rien, donc il voit à travers les autres, il projette, c'est un magicien, c'est quand même pas un si mauvais magicien, parce qu'il réussit à transmettre à ses proies ou à ses complices, selon la façon dont on le voit, des images de leur avenir, eux-mêmes les voient à travers lui, enfin plus exactement ils les voient à travers lui, et il se donne aussi comme un ordonnanceur ou un type qui tire des ficelles d'une situation qui le dépasse. Donc la situation nous dépasse, feignons d'en être l'organisateur. Bon, il y a un côté comme ça, Paul. Ce qui fait que Paul est quand même beaucoup plus sympathique que Clément Roquemort. Il n'y a strictement aucun doute quand on voit le film que Paul a un capital sympathie immédiat, un capital charme en tout cas immédiat, tandis que Clément est particulièrement odieux. Mais à la fin, on voit, enfin, comment dire, quand il commence à refaire ses petits scénarios, ah ben, elle va rester là, l'autre va partir, mais c'est pas grave, on va réussir à recréer notre petit scénario. C'est quand même un petit apprenti sorcier, c'est un petit voyou aussi, quand même, c'est un petit filou. Et le duo, Clément Roquemort, Paul, on va dire, d'une certaine façon, resubdivise, l'espèce de noyau renoirien là que Eustache et Rivette avaient traversé. Le truc, c'est que ce qui se joue là dans ce cadre, c'est qu'il y a un personnage, il y a un autre personnage quand même. Il y a un personnage qui se donne comme le sage, on pourrait dire. C'est un drôle de sage. Et ça, c'est le côté shakespearien. C'est Virgile. c'est que c'est l'autre personnage masculin. C'est qu'on a Clément, on a Paul. Pour Charlotte et Émilie, on a compris ce qu'elle rejouait. Clément et Paul, on a compris aussi. Mais il y a Virgile. Et Virgile, à la fin, il dit « Tant que je suis là, le temple tombe pas. » C'est une image très curieuse, c'est parce que c'est un correcteur, c'est un traducteur, c'est l'image de toutes les forces de l'ombre qui fait que le monde s'écroule pas. C'est-à-dire qu'on a quand même une confrontation à ce moment-là à une figure et elle est comique, mais comme les figures positives sont comiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas à aucun moment on peut vraiment le charger. Il est maladroit. Il reste un peu trop sur la route quand les filles essayent de passer. S'il vous plaît, dégagez. Il est pato. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il protège le monde. C'est une image en fait, c'est une image qui vient là. C'est là où on ressent un peu l'ésotérisme. Et les livres tombent.
les livres par terre,
sicament par terre. Et c'est cette image qui est dans le Zohar du saint qui, par l'étude, soutient le monde. C'est une image du Zohar. C'est le saint béni soit-il par l'étude. Alors c'est l'étude de la Torah dans le Zohar évidemment. Mais si le monde s'écroule pas, c'est qu'il y a des personnes qui continuent à pratiquer l'étude. Et là, c'est une forme de représentation de l'étude de la connaissance du savoir qui se donne comme un majordome. En même temps, il est aussi le correcteur, il est le traducteur. On ne sait pas à quel point il écrit pas les pièces ou il est pas le nègre. Enfin, son rôle est assez flou. Il est un peu partout à la fois. Il est plutôt bien perçu par tout le monde. Et malgré la continuité de, comment dire, malgré le retour d'un élément foncièrement mauvais dans le monde, qui était plus ou moins annoncé à la fin de Céline Jumont en bateau, parce qu'elles avaient eu beau à interrompre la pièce, le bateau revenait. Donc on savait qu'on n'avait pas fini avec le bateau. Et que d'une certaine façon, il y a une coupure dans les années 70 de Rivette où, avec le cycle des filles du feu et tout ça, les problèmes, on a cru qu'on avait réglé les problèmes d'antan et en fait ils vont finir par revenir. Fille du feu, Mérigorande, Le pont du Nord refait le point. Le pont du Nord, film très pessimiste. L'amour par terre, film moins pessimiste, enfin, beaucoup moins pessimiste. C'est pas Céline Dion vont en bateau, mais on va pouvoir peut-être s'en sortir. Et en fait la résolution, pour moi, elle arrive de film plus tard dans La bande des quatre. C'est qu'en fait il y a une solution, vu que l'amitié sera toujours mise en rivalité. Il va falloir créer une nouvelle société, un nouveau groupe, le groupe de filles. C'est drôle parce que pour moi, tous ces films-là, ils annoncent des choses qui vont avoir lieu beaucoup plus tard. Autant dans L'amour par terre, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le déferlement de merde de l'autofiction qui est pressenti comme la conséquence en fait de la dépolitisation des classes supérieures, quoi. Comme les bourgeois cultivés n'ont plus de projet d'émancipation pour le reste du monde, bah ils vont recommencer à se tirer la bourre et à se mettre en rivalité et à faire leurs petites conneries sous prétexte de chercher la vérité, de vouloir dire la vérité. Mais dans La bande des quatre, on a la constitution d'une sororité. C'est-à-dire les trucs de Starhawk, quoi, des sorcières américaines, mais qui sont en train de débouler en France. Et un exemple de ça, c'est Chloé Delhomme, qui est passée de l'autofiction à la sororité. C'est une écrivain d'aujourd'hui que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être un peu lu, je sais pas, qui est un écrivain formidable, obsédé par aussi les relations entre poésie, magie et tout ça, et qui a fait le deuil de tout le truc d'autofiction et a commencé à prendre en charge ou prendre en main toute la question de la sororité. Les sororités, c'est grosso modo, c'est les groupes de filles, mais qui sont perçus comme des groupes magiques, des groupes de sorcières, quoi. Et qui sont pas des sorcières méchantes, hein, qui sont des sorcières comme Céline et Julie, qui essayent juste qui pensent que le premier truc, c'est essayer de faire que les femmes ne soient pas ennemies entre elles, ne soient pas mises en rivalité. Ne recréez pas de rivalité artificielle. Alors, c'est un truc que les mecs sont visiblement pas capables de faire. Je trahis peut-être mon camp en disant ça. je sais pas si c'est mon camp, mais c'est en tout cas dans les films de Rivette, ça semble évident. les mecs sont pas vraiment capables d'être amis. Les filles le sont peut-être. Et donc, si les filles le sont, peut-être qu'elles vont réussir à créer des meilleures relations aussi avec les hommes dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, déjà, régler le plus simple, qui est de recréer des bonnes relations. Et on peut voir un passage de Spire. Si on voit l'œuvre de Rivette comme une spirale, on peut le voir aussi comme des systèmes de parenthèses. Autre référence littéraire par rapport à l'amour par terre, ça c'est dans l'interview de Rivette avec Frédéric Bonneau, il parle de Raymond Roussel. Bon, je vais pas vous faire chier avec Raymond Roussel du Sycomore, là. Je sens que ça va être trop long, mais ça sera pour au repas. Mais Raymond Roussel, il parle de Raymond Roussel et des nouvelles impressions d'Afrique. Il dit, c'était très simple, parce qu'il y a eu deux versions de l'amour par terre. Il y a la version qui est sortie au cinéma, où on a enlevé toutes les scènes avec Béatrice, les scènes intermédiaires avec Béatrice. Béatrice rencontrait les filles, elle prenait des identités différentes, elle les rencontrait selon une grande bourgeoise ou selon une clocharde. Et ça a annoncé le moment où elle réapparaissait à la fin et machin. Et pour réduire le film, il a enlevé toutes ces scènes-là. Et Bonneau demande à Rivette, mais comment vous avez fait, etc. Il dit, mais c'est simple, le film était construit de toute façon comme les nouvelles impressions d'Afrique. Alors là, j'entends ça, je dis quoi ? Et il dit, on commence une phrase, on ouvre une parenthèse, on reprend une phrase, on rouvre une parenthèse, on reprend une phrase, on ouvre une parenthèse, et puis après on ferme les parenthèses. Donc l'amour par terre. C'est une phrase, une parenthèse, une phrase, une parenthèse. Et on referme les parenthèses. Il dit, dans ces cas-là, il y avait qu'à enlever un groupe de parenthèses. Et le film tenait. Il fallait choisir lequel. Le plus simple, c'était celui de Béatrice. Mais on peut dire ça du cinéma de Rivette. C'est-à-dire que c'est une suite, c'est une phrase avec des parenthèses qui s'ouvrent, il faut les refermer un moment. Alors, ou on a l'image de la spirale où on repasse par des spires, ou on a l'image d'une phrase avec les parenthèses, mais c'est peut-être la même image, en fait. Et il parle de Roussel, mais on peut dire aussi qu'un de ses écrivains fétiches, Peggy, ça fonctionne un peu pareil. C'est un peu plus chaotique que Roussel. Roussel, c'est très bien, c'est très logique, c'est très bien agencé, c'est beaucoup plus mathématique. Peggy, c'est plus pulsionnel. Mais il y a ce truc-là. On commence une idée, on ouvre une parenthèse, on commence une nouvelle idée, on ouvre une parenthèse, et puis on ferme celle qu'on peut fermer. Et Rivette, on peut dire, Paris nous appartient. C'est le début de la phrase. C'est le Paris nous appartient, Paris n'appartient à personne. Et c'est aussi le à nous de Paris de Balzac. Et on a la solitaire. Là, elle est attrapée dans une histoire qui n'est pas son histoire, mais qui est une vision de complot mondial, etc. C'est d'ailleurs absolument hallucinant. C'est moi aussi qui fais les parenthèses tout le temps, mais parmi tous les thèmes des films de Rivette et qui sont des thèmes qui annoncent beaucoup les temps qui viennent, je trouve incroyable que ce n'ait pas encore été fait, mais tout ce qu'on appelle la théorie du complot ou du conspirationnisme à l'aune du cinéma de Rivette, quoi. Mais vraiment, il y a un truc à réfléchir là-dessus. C'en est hallucinant. Il y a deux auteurs qui ont fait vraiment un truc énorme, c'est Rivette et Thomas Pynchon en littérature américaine. C'est des types qui sont très en amont sur à la fois la question des grands thèmes de société qui vont débouler 30 ans ou 40 ans plus tard, qui ont déjà vu tout le problème des 70 et qui ont aussi tous ces personnages de type qui sont pris dans des complots ou qui pensent qu'il y a un complot et qui sont, on sait pas s'ils sont pris par l'idée du complot ou par un complot réel. Dans Paris nous appartient, on voit à la fin que on referme tout, quoi. Le complot n'a jamais existé. Juan a été tué par les forces espagnoles, machin. Bref. Mais on ouvre une parenthèse et cette parenthèse, ça va être après dans Céline et Julie vont en bateau, où ça va être out. Et après, le cinéma de Rivette, à un moment, va devoir commencer à fermer des parenthèses. Un film comme Ne touchez pas à la hache, qui joue l'histoire des 13, c'est comme s'il fermait la parenthèse de out. Un film comme La belle noiseuse, qui joue aussi le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, c'est comme s'il fermait une parenthèse, mais beaucoup plus récente, qui serait dans la bande des quatre. Et ils ont tous des parenthèses qui s'ouvrent et qui se ferment. Et l'amour par terre est celui qui le rejoue quasiment en son noyau. Il y a un côté art poétique par rapport à ça. C'est comme si l'amour par terre était, en tout cas des films de Rivette, celui où se joue le plus nettement ce qui est à l'œuvre en termes de la question de la création par rapport au thème qui vont être traités dans les autres films. L'amour par terre, on met en rapport le type d'artiste qu'on veut pas être ou qu'on doit pas être, l'espèce d'artiste démiurge, l'artiste en fait, je sais pas quoi, le complot quoi, enfin, l'artiste comploteur, l'artiste exactement, comment dire, qui est devenu l'ennemi qui est supposé combattre, et les personnages de les actrices qui doivent s'émanciper d'une mauvaise fiction. Et ce que font Charlotte et Emily à un petit niveau, à un niveau presque profane, c'est ce que font Céline et Julie à un niveau magique. Céline et Julie à un niveau magique, elles réussissent à interrompre la mauvaise pièce qui se répète éternellement, et elles deviennent en fait sujettes d'un récit dont elles n'étaient que l'objet ou que l'actrice émancipée. Et dans L'amour par terre, Charlotte et Emily arrivent à s'en sortir aussi. Et elles ont un intercesseur, véritablement, un adjuvant dans l'éternation, qui est Monsieur Virgile, par rapport à ça. Qui est Virgile? Virgile, il serait, on va dire, la bonne littérature par rapport à la mauvaise littérature qu'est Clément. Alors, il est dans les interstices, il est le petite main, il est le correcteur, il est le traducteur. Il est transmetteur aussi, c'est le traducteur, c'est celui qui transmet l'œuvre de Shakespeare. Alors il transmet pour les Finlandais, très bien. Il est la mémoire de ce qu'il y a pu avoir de beau en poésie. Il est le bon rapport à ces choses-là. Par rapport à Clément et par rapport à Paul, qui malgré tout est aussi une sorte de petite figure de sorcier. Ils sont encore rien comparé à Thomas dans la bande des quatre. Thomas dans la bande des quatre, à côté de lui, c'est des petits enfants, Clément et Paul. Ils ne méritent pas non plus notre vindicte, notre haine. Ils sont dans des toutes petites manipulations. En fait, Clément, il est dans ce que Deleuze appelle le sale petit secret. Ça aussi, c'est un autre rapport et très étrange entre Rivette et Deleuze. Et c'est Deleuze a beaucoup écrit sur Rivette. Je ne sais pas du tout ce que Rivette pensait de Deleuze, mais il y a des choses où il y a des moments où ça se croise vraiment sur des trucs. Et c'est là où le fait qu'il s'appelle Tropman, son personnage, est intéressant, parce que un des trucs qui avait beaucoup surpris les amateurs de Deleuze ou les collègues de Deleuze, c'est la détestation profonde de Deleuze pour Bataille. Ça, c'est un truc qui apparaît une fois, mais alors de façon très nette, c'est dans Dialogue avec Claire Parnet, où là, il est vindicatif, et où il dit Bataille est vraiment l'archétype du petit écrivain français tel qu'il est le plus détestable. Il est dans le sale petit secret, la transgression, la loi, et tous ces trucs-là. Et le sale petit secret, c'est une expression de D.H. Lawrence, qu'il utilise dans plusieurs textes, mais en particulier dans Pornographie et Obscénité, et qui est vraiment la forme réactive par excellence par rapport à la question de l'érotisme. Vraiment l'utilisation de la forme réactive. Le sale petit secret, c'est, en fait, c'est l'érotisme, l'amour vécu sous le mode de ça me plaît parce que c'est interdit. Ça me plaît parce que c'est interdit. Et en fait, c'est ce qui fait revenir la loi. Donc c'est ce qui fait revenir le démiurge. C'est ce qui fait perpétuellement revenir le démiurge. Et là, c'est là où on rentre dans un truc qui est abyssal, qui est le caractère absolument visionnaire des films de Rivette par rapport à, nos fins dernières. C'est que le sale petit secret, enfin, Clément Roquemore, Clovis Tropman, ce qu'il fait, c'est qu'il fait rejouer ses histoires dans ses pièces comme une espèce de petit théâtre qu'il répète à l'infini, pour pouvoir toujours recréer ces mêmes relations pourries qu'il a et qui sont des relations d'entre-dévoration. C'est pas des relations d'amitié, c'est pas des relations de fraternité. La relation qu'il a avec Paul, au mieux, si on veut vraiment être gentil, c'est juste de l'homosexualité refoulée. Sinon, je sais pas ce qu'on peut dire, mais ça sera vraiment, c'est de la boue, quoi. Et leur truc où il y a besoin d'une fille, ça circule, on recrée les mêmes relations, la fille elle est remplaçable, le mec il l'est pas. Bon, on a vraiment le petit théâtre qui se répète. Et ce petit théâtre, c'est un petit théâtre du sale petit secret. C'est ce qui empêche l'amour d'être affirmatif, c'est ce qui empêche l'érotisme même d'être affirmatif. C'est ce qui fait que, malgré elle, ou peut-être quand même aussi, elles sont, parce que Charlotte et Émilie sont pas Céline et Julie, elles sont prises dans ces trucs-là. Il y a cette scène qui, pour moi, a toujours été d'une violence dingue, qui est le fait que Charlotte non seulement elles ont humilié Éléonore, l'ancienne de... Il y a cette scène où ils sont en train de dîner tous les trois. Paul et Émilie sont allés faire leur affaire de leur côté. Et il y a Charlotte et Éléonore et Clément qui sont encore à table. Je sais pas ce que fout Silvano, il doit regarder son assiette. Ou il est peut-être rentré dans le dernier métro, je sais plus, mais ils sont tous les trois. Et Clément humilie Éléonore. Éléonore lui dit un truc très juste en lui disant « Vous êtes beau être un bon écrivain, vous avez un problème avec la vérité. » Lui, il dit toujours la vérité, la vérité. « Vous avez un problème avec la vérité. Et pour vous, les femmes, c'est soit belle et tais-toi, etc. » Elle lui redit un truc. Et lui, lui répond avec des espèces de morgue qui sont au mieux une sorte de caricature ou de parodie de Sacha Guitry, qui est « Vous êtes l'exacte incarnation du contraire, ma chérie. » Et donc, il l'humilie comme ça. Tcha, tcha, tcha. Elle finit par partir dans sa chambre en pleurant. Après, ils vont coucher ensemble. Charlotte est excitée par cette scène. Ils vont coucher ensemble. Et ensuite, elle a la petite clé de Barbe Bleue de Clément. Et elle dit « J'ai une clé et Éléonore n'a pas. J'ai une clé et Éléonore n'a pas. » C'est-à-dire que elle jubile de la souffrance de cette pauvre femme qui vient de se faire, en plus, jeter de façon atroce. C'est vraiment le moment où Charlotte, ça dérape, quoi. Enfin, je sais pas, ça, il y a un truc qui coince dans ce truc-là. Les personnages sont pris dans ce truc-là. Ils sont pris dans cette espèce de saloperie, de rapport de rivalité, de rapport de, je jouis parce que quelqu'un souffre pendant que moi non. C'est tout ce truc atroce qu'il faut essayer d'arriver à arrêter. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe vraiment dans la bande des quatre. C'est ce qui réussit à se passer dans la bande des quatre. Et pour ce qui est de l'amour, ben il y a l'histoire de Marie et Julien. Mais ça c'est une autre histoire. Je m'arrête là. On peut parler maintenant. On peut discuter.